Bonjour. C'est un débat dont on peut tout ignorer si l'on ne s'intéresse pas au vin, mais qui s'avère récurrent et parfois très vif dès lors qu'on échange avec des initiés. Peut-on dire d'un vin qu'il est minéral ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que cette minéralité dans le vin ? Si tout le monde s'accorde à dire que le vin est structuré par les apports nutritifs que la vigne trouve dans le sol, peut-on pour autant distinguer à la dégustation ce qui relève de ces éléments minéraux par rapport aux nombreux arômes développés lors de la fermentation, par exemple ? Croyez-moi, sur ce sujet, nombre d'intervenants se disputent depuis des années. Comme on adore ici se poser des questions et si possible trouver des spécialistes pour y répondre, nous avons décidé de prendre le sujet à bras le corps. Ce 70e épisode s'intitule « Ce vin est-il vraiment minéral ?» Bienvenue dans la Terre à Boire. Et pour aborder un thème aussi fondamental que complexe, fondamental ou presque, hein, on verra s'il est vraiment fondamental, j'ai à mes côtés le grand plaisir d'avoir Patrice Defay. Bonjour Patrice.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Très bien.
Et j'ai là aussi, à côté de moi, Marie, alias Mademoiselle Jaja. Bonjour Marie.
Bonsoir à tous.
Comment ça va ?
Ça va très très bien.
Mademoiselle Jaja, des dégustations, des cours sur le vin, des événements autour du vin.
Voilà, des ateliers pour les particuliers en petit ou en grand comité selon la place qu'on a, dans la joie et la bonne humeur pour cette rentrée.
Contactez-la sur les réseaux pour organiser votre événement, votre soirée entre amis. Voilà, Mademoiselle Jaja. Marie-Patrice, c'est donc un sujet potentiellement complexe, polémique, difficile.
Absolument passionnant.
A priori, on devrait pas se battre. Absolument passionnant, tu nous dis. On va en discuter ensemble. Et puis, on a une autre personne pour nous aider à en discuter. Quelqu'un qui est assez bien placé pour parler du sujet de la minéralité. Bonjour, David Lefebvre.
Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Bonjour, Patrice.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chimiste de formation, œnologue également. Vous êtes journaliste aussi, parce que vous écrivez sur ce sujet et sur d'autres autour du vin depuis de nombreuses années.
Exact, oui, tout à fait. Oui, ça a dû commencer au début des années 2000, effectivement, quand je suis sorti du laboratoire d'œnologie dans lequel je travaillais.
Alors vous allez vraiment nous aider à défricher un petit peu ce sujet. Patrice, qu'est-ce que tu pourrais dire déjà pour introduire un peu cette question de la minéralité ?
Pour attaquer cette montagne dans le domaine de l'œnologie et du monde du vin aujourd'hui, la minéralité d'abord c'est une notion assez complexe dans le monde du vin aujourd'hui. C'est d'abord quand on parle de minéralité, c'est d'abord un terme plutôt positif. Donc quand on dit minéralité autour d'un vin, ça évoque le sol, le terroir, et ça fait souvent écho à une idée de pureté et de complexité. En bref, et sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un peu la terre à boire quand même, la minéralité.
Hein, c'est ça. On a mis 3 ans à s'en rendre compte, mais
voilà. Donc, moi, j'aboutis enfin à la genèse de mon titre et du nom qu'on a trouvé.
D'ailleurs, on arrête le podcast après cette émission.
Exactement. Voilà.
La boucle est bouclée.
Mais au-delà de ça, c'est une notion encore floue et assez mal définie. On la confond souvent avec l'acidité et la salinité. Elle a des caractères de la salinité et de l'acidité, mais c'est pas forcément que ça. Et en fait, c'est le lieu, comme tu le disais, d'un débat assez farouche, on va dire, entre les tenants de la dégustation sensorielle un peu classique, hein, globalement 90% des œnologues, et puis toute la notion autour du nez et des arômes, et de l'autre, les chantres de la dégustation plutôt géosensorielle, pour lesquels elle incarne la véritable signature du terroir. Après, on le dit assez rarement, mais un vin, lui-même le vin, alors après David Lefebvre me corrigera ou me tapera peut-être sur les doigts, mais c'est d'abord quelque chose de minéral. Entre 85 et 90% d'un vin, c'est de l'eau minérale,
oui.
Et puis
oui.
C'est des oligo-éléments, et puis c'est des éléments, voilà. Donc un vin déjà par nature, la nature première d'un vin est d'être minéral. Et donc la minéralité, c'est pas qu'une affaire de goût, c'est aussi l'ADN et la nature première du vin. Plus un vin est minéral, plus il est authentique, et c'est un peu plus il est authentique et plus il est en accord avec sa nature, voire avec la nature.
Oui. Marie, toi, alors je vous redonne la parole tout de suite, David. Je voulais avoir l'avis de notre Mademoiselle Jaja nationale. Marie, ton avis toi sur ce sujet ?
C'est un sujet que je trouve passionnant, non pas parce qu'il défraye la chronique, et il est vrai que dans les cercles que je fréquente, il défraye pas la chronique, parce qu'on est à peu près tous d'accord, mais c'est justement ce qui est intéressant ce soir. Mais quand tu t'attelles à faire découvrir les vins naturels, s'il n'y a pas une notion de minéralité, même dans les vins rouges, et ça m'intéressera beaucoup qu'on creuse ça avec Monsieur Lefebvre ce soir, c'est qu'il manque quelque chose à mon sens. Pour moi, on parle d'identité et je préfère une femme avec deux yeux. Je préfère un vin avec de la minéralité.
David Lefebvre, voilà. Que pensez-vous de ces micro-introductions?
Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, on risque de ne pas avoir un débat véritablement contradictoire, parce que sur votre introduction, j'ai senti qu'il y avait un peu, on était à peu près sur la même ligne. Alors, quelle est la question qui est posée? Quel est le débat de cette minéralité? En gros, il y a une bonne partie du monde du vin, des acteurs du vin, qui considèrent que la minéralité, c'est une notion qui n'a pas de réel fondement chimique. Quand on parle d'acidité du vin, quand on parle du sucre, quand on parle de la teneur en alcool, quand on parle de l'amertume, derrière, il y a des données chimiques, d'analyse, objectives.
Hein, on peut isoler la molécule qui représente, qui provoque telle saveur, tel arôme. Ça n'est pas le cas de la minéralité.
Voilà. Alors, quand on parle de minéralité, on pourrait dire, ben, c'est pareil, il y a les minéraux, hein. Sauf que le tout début du débat, on disait oui, mais quoi, il y a 3 grammes par litre ou 2 grammes par litre de minéraux dans un vin, donc ça ne vient pas jouer véritablement sur le goût, ça n'interfère pas sur le goût du vin. Et ce à quoi je répondais, mais mettez 1 gramme par litre ou 2 grammes par litre de sel minéraux dans de l'eau, vous verrez, ça interfère beaucoup. Je me souviens d'une expérience, c'était une formation que je faisais à Poligny dans le Jura, il y avait une quarantaine de vignerons, c'était par le laboratoire départemental d'analyse. Parmi les vignerons, il y a Pierre Aubernois qui était venu écouter la formation, suivre la formation, et après on a fait une dégustation, et Pierre Aubernois, très malicieux, était venu avec un vin dans lequel il avait ajouté un gramme et puis un autre quelques grammes de sel, tout simplement, hein, du sel pas raffiné. Et il avait dit, bon voilà, est-ce que c'est un vin minéral? Donc on avait eu tout ce débat là-dessus, et effectivement, la salinité est une des composantes gustatives de la minéralité, voilà. Donc, il y a un débat, et puis donc il y a les gens qui nient l'effet des minéraux sur le goût du vin, et puis il y a des adeptes de qui défendent la minéralité, qui considèrent que les minéraux, ben, jouent un rôle essentiel. Et il y a une chose qui est très intéressante sur cette théorie, comme dit Michel Legris, de la Vinothèque à Strasbourg, qui est aussi un philosophe, une formation en philosophe, en philosophie, et il parle de théorie de la minéralité. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue chimique, c'est que par exemple le calcium que vous avez dans votre vin, le potassium, le magnésium, le manganèse, il n'a pas une origine de photosynthétique, de la photosynthèse, il ne peut provenir que du sol. Donc la question, c'est bien de savoir s'il y a une identité minérale qui est en lien avec l'identité géochimique d'une parcelle pour un vin.
Au-delà du goût, je crois. Enfin bon, moi, comment je vous ai découvert? Je vous ai découvert dans un livre de François Morel qui s'appelle Le vin au naturel, qui parle pas mal de vous. Et puis vous parlez bien sûr de minéralité, du goût, et puis vous parlez aussi de minéralisation, c'est-à-dire que vous dites que le principe même de la fabrication d'un vin, de la constitution au sens fermentation d'un vin, c'est pas que une fermentation, c'est aussi une minéralisation.
C'est le principe même de processus de minéralisation. C'est quoi un processus de minéralisation? C'est un processus de décomposition de la matière organique. Alors, il y a plusieurs voies de décomposition de la matière organique. On peut brûler de la matière organique, on brûle du bois. C'est un processus de minéralisation. Il y a des processus biologiques, des processus chimiques. L'oxydation, c'est un processus de minéralisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'évolution de la matière organique vers un état minéral. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce processus général? Ben, la matière organique se décompose au final, elle se décompose en eau, en gaz carbonique, en différents composés. Et si on poursuit jusqu'au bout le processus de minéralisation, au final, il reste les cendres, uniquement les cendres. Et c'est bien ces cendres qui sont le résultat ultime d'une minéralisation. C'est bien ce qu'on retrouve, par exemple, quand on brûle du bois. Hein, où au final, il reste les bois, il reste les minéraux, résidu. Les minéraux qui, à l'origine, étaient issus dans l'arbre de ce que l'arbre avait prélevé dans le sol. Hein, il n'était pas allé le chercher. La partie photosynthétique, c'est pour la constitution de la matière organique.
Alors, pour vous citer dans le livre, mais pas là, vous dites qu'en fait, le processus de minéralisation, c'est de transformer des éléments instables en éléments stables dans le temps.
Vous prenez une grappe de raisin, vous la laissez à l'air, elle est éminemment instable, au bout de quelques jours, elle a commencé à moisir, à se décomposer. Et son processus naturel, c'est un processus qui va vers la minéralisation. Sauf que le vigneron, lui, il contrôle ce processus de minéralisation, ni trop, ni pas assez, mais il le contrôle par différents processus. Le premier facteur de minéralisation qu'il applique, ça peut être le pressurage, ça peut être la macération, c'est-à-dire qu'il décompose la matière. Une matière qui, au départ, est éminemment instable d'un point de vue biologique, chimique, biochimique, parce qu'elle est sujette à toutes sortes d'attaques, et elle évolue vers un état de stabilité. Et donc, le vin, c'est un état intermédiaire de cette phase de minéralisation. Et ça a une explication thermodynamique. Hein. On va vers d'un processus qui est thermodynamiquement instable vers un processus vers plus de stabilité, et la stabilité finale qui est absolue, c'est le minéral. Hein, le minéral est inaltérable à l'air. Voilà. Donc cette vision-là, si vous voulez, je pense que ça a permis pour les vignerons nature en l'occurrence de réfléchir tout leur processus de vinification, parce que le soufre, c'est justement un composé de stabilisation de la matière, donc qui empêche des processus de minéralisation. Mmh. Donc, les vignerons ont cherché à éliminer tous les composés qui sont de nature à stabiliser et empêcher le processus de minéralisation pour aller rechercher une stabilité, j'allais dire, naturelle, hein, qui n'est pas le fait du sulfitage. Voilà.
Je reviens un peu sur la minéralité. On a tendance à beaucoup parler de minéralité sur les vins blancs en général, plus que sur les vins rouges. Pour le coup, alors malheureusement on n'est pas ensemble, on peut pas le déguster ensemble. On déguste un Riesling 2013 donc, chez Barmes Becher, donc sur le terroir qui s'appelle l'Emmental.
Très bon vin. Mais... c'est toi qui as apporté ça
en 2013,
Marie.
C'est un chouette.
C'est Patrice qui a apporté ça.
On te remercie.
Superbe vin.
Chaleureusement.
Superbe Riesling. Vous êtes en Alsace, vous, hein, donc c'est un vin que vous connaissez, ça, je pense.
J'ai connu François, effectivement, décédé. Après, Maxime a repris avec sa maman Geneviève et puis aujourd'hui sa sœur. Et donc, le trio conduit le domaine un peu dans la ligne de ce que faisait François, qui était un pionnier de la biodynamie en Alsace. Hein, c'était un des tout premiers, François Barmès. Et donc, ils avaient déjà à l'époque cette intuition de vigneron qui recherche la minéralisation. Comment, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous mettez le vin dans une cuve inox et si vous mettez le même vin dans une barrique, la différence du contenant, c'est que la barrique, elle est poreuse, elle laisse passer l'air, elle favorise les échanges avec l'oxygène et donc les processus d'oxydation, ils sont ménagés, mais ça favorise les processus d'oxydation. Donc, si vous voulez comparer un même vin, lequel est le plus minéral entre celui qui a été élevé en cuve inox et celui qui a été élevé en barrique, fatalement, celui qui a été en barrique sera plus minéralisé. C'est comme le processus de fermentation malolactique. Si vous ne le faites pas, vous avez une fermentation en moins sur le processus. Et la fermentation malolactique, c'est un processus qui s'ajoute et qui conduit à la dégradation de la matière organique. Je prends toujours ce propos d'Anselme Seloge qui dit que son travail de vinificateur, c'est de décomposer la matière organique pour révéler le minéral. Voilà. Là, vous avez fait allusion à toute la frange des gens qui défendent la dégustation géosensorielle, hein, donc avec Jacques Irigaud.
On pense On pense voilà. tout de suite à Jacques Irigaud, en effet.
Voilà.
Je reviens juste sur une chose que vous venez d'expliquer, mais qui me fait penser que il s'agit d'interaction en fait entre les différents éléments. Il me semble que vous parliez de la salinité comme d'un véhicule qui permettait d'identifier un petit peu plus facilement la minéralité.
Une résultante, oui. C'est la minéralisation gustative. Oui.
Et puis j'ai l'impression qu'un certain nombre de dégustateurs ont commencé par penser que un cépage peu aromatique pouvait être un petit peu plus vecteur de son sol.
Minéral, oui.
Et finalement, oui. il est peut-être tout simplement plus facile à identifier. Mais d'après vous, un Chenin ou un Riesling n'est pas plus minéral qu'un Chardonnay ou un Sauvignon?
Ah, ça dépend du processus de minéralisation que vous recherchez. Vous pouvez avec tous les vins, des vins très organiques, hein, et c'est très louable. Le Beaujolais nouveau, c'est un vin on ne peut plus organique parce que très peu minéralisé. Hein, sort de la fermentation, il est tout jeune. Ce qui se passe quand vous appliquez les processus de minéralisation, c'est qu'au départ, vous avez votre matière minérale, c'est-à-dire les cations minéraux, ben ils sont enchâssés dans des matrices organiques, hein, dans le raisin, et au fur et à mesure de la processus de fermentation et d'élevage, vous décomposez cette matrice. Et donc, vous libérez les minéraux. Et donc, c'est ce qui explique qu'au départ, on sent, quand on goûte le jus, bon, du fait qu'il y a le sucre aussi, qui fait partie de la matrice, eh bien, on sent pas les minéraux, mais quand décomposer la matière, ben ça libère les sels minéraux, une partie devient libre, et là on a une sensation de salinité en bouche, tout simplement parce que le calcium avec des matrices beaucoup plus petites, beaucoup plus décomposées, est facilement accessible aux papilles gustatives. Je vous rappelle quand même que au tout début de ce débat de la minéralité, d'un point de vue neurosensoriel, on disait que il n'y avait que le sodium qui était accessible comme effet salinisant d'un point de vue gustatif. Aujourd'hui, on commence à découvrir des papilles gustatives spécifiques du calcium.
Oui, ce dont nous a parlé Bruno Quenu, d'ailleurs.
Un détail important sur cette question de la détection, c'est-à-dire est-ce que je le sens à la dégustation? Vous écrivez, je crois, que la minéralité ne se sent pas, ne se flaire pas, si j'ose dire. Elle se goûte, et c'est un des aspects qui fait qu'il y a un peu scission entre les œnologues qui ont énormément mis le nez en avant, les arômes passés essentiellement par le nez, et vous dites bah oui, évidemment, ces arômes de, enfin, la sensation de minéralité, elle passe pas par le nez, elle ne passe que par le goût, alors elle est d'autant plus difficile à déceler.
Bah, le point de fusion des minéraux, le point de passage en phase vapeur, c'est 3000-4000 degrés. Hein. Donc forcément, ils n'atteignent pas le.
Mais le soufre n'est pas un minéral?
Alors, le soufre lui-même, S2, c'est un minéral, mais les sulfites, non, c'est pas un...
C'est des versions dégradées qui font qu'elles sont dans l'air, en fait, et qu'on peut les sentir.
Voilà, c'est ça. Le problème de base de quand les chercheurs, il y a eu beaucoup de dépenses, je me souviens d'une étude du CNRS menée conjointement avec l'école de Changin, donc ils ont pris un panel de plusieurs centaines, même au-delà du millier de dégustateurs, et ils ont demandé ce qu'était la minéralité, ils ont proposé différents indicateurs, et ils ont sorti un consensus sur effectivement des composés, notamment le benzène méthanthiol, c'est la pierre à fusil hein, du silex. Alors, et donc ils ont constaté aussi dans cette étude que les vins qui avaient un peu plus de sulfite avaient une perception plus minérale. Moi j'ai considéré, et pas que moi, des neuroscientifiques aussi, que cette étude était biaisée. Pourquoi? Parce que le consensus simple de la minéralité, c'est, moi je vous présente deux paysages, je vous présente un paysage de la forêt amazonienne, luxuriant, et je vous présente un paysage, le Grand Canyon, dans le Colorado, je demande à 100 personnes qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant le plus minéral, il y aura 100% qui vont dire c'est le Grand Canyon. Mmh. Donc, il y a une réalité de base sur l'identité commune, la représentation de la minéralité, c'est que c'est lié à un paysage minéral, à des minéraux. Voilà.
Peut-être qu'on cherche le lien avec le résidu sec dont vous parliez tout à l'heure, les fameuses cendres
du vin. Non, alors le résidu sec, Alors, il y a deux choses en analyse œnologique. Le résidu sec, c'est la matière organique avec la matière minérale dedans. Mm-hmm. Et le résidu minéral, c'est les cendres. C'est-à-dire d'un
les
point
fameuses
de vue œnologique, analyse, ouais, d'un point de vue analyse, c'est différent. Pour le résidu sec, vous évaporez le vin.
Est-ce que vous pensez
qu'il vous reste le poids, attendez, il vous reste le poids la matière organique pour arriver au cendre, vous brûlez ce résidu sec à 600 degrés.
D'accord.
Et là, c'est quand vous avez brûlé à 600 degrés qu'il vous reste de les cendres.
Hein? Oui, je m'excuse, je suis passionnée par cette question des cendres du vin, oui. Mais je me posais la question de savoir si la quantité était plus importante que la qualité, parce que vous parliez de contenu minéral différent selon les cépages, oui. Par exemple. Oui. Mais est-ce qu'on peut aussi supposer que les cendres du vin ne sont peut-être pas de la même nature?
Alors, qu'est-ce que tu appelles les cendres du vin, juste pour qu'on comprenne de quoi il s'agit?
Les cendres du vin, c'est quand vous brûlez complètement le vin. Voilà, vous le brûlez complètement à 600 degrés.
Oui. Ah oui, d'accord.
Vous restez, c'est comme l'histoire de la bûche que vous mettez à la cheminée. Vous la brûlez totalement. D'accord. Donc, vous décomposez complètement la matière organique, la paroi chimique pour l'occasion, là, et il vous reste que les cendres. Mm-hmm. Vous pouvez brûler par la même occasion, sauf que c'est un liquide, mais vous le brûlez totalement.
Mm. C'est un peu dommage.
Et il vous reste...
Surtout s'il est bon.
Alors, juste une information. Souvent, les vins qui sont en pressurage direct, qui sont sur des pressoirs bûchers ou vignes-messes ou ainsi de suite, des pressoirs à membrane, en gros, ils affichent 1 gramme, 1,2 gramme, entre 0,8 voilà, et 1,5 gramme par litre de cendre. Si vous faites une macération, alors là, vous allez chercher, que ce soit sur des blancs ou des rouges, là, vous allez chercher beaucoup plus de matière minérale parce que dans la baie de raisin, elle se situe au niveau de sous-jacent, des cellules sous-jacentes de la pellicule et proche du péricarpe autour du pépin de raisin.
D'accord.
Donc forcément, quand vous allez faire une macération de plusieurs jours et ainsi de suite, vous allez chercher ces minéraux et au final, vous vous retrouvez pour ces vins de macération, rouges ou blancs, en gros à 3, 4, 5 grammes par litre de cendre.
Donc, alors, j'insiste lourdement. Est-ce qu'il serait possible, d'après vous, qu'on ait deux vins avec une quantité de cendres différente, mais celui qui en contiendrait un petit peu moins pourrait être plus expressif pour le dégustateur? Est-ce que c'est de l'ordre du possible?
Oui. Là-dessus, je vais vous dire que je vais vous décevoir. Il n'y a pas de relation chimique quantitative entre la quantité de cendre et la sensation de minéralité.
D'accord.
T'as pas ton équation, t'es déçu.
Non, au contraire.
Non, je suis désolé.
Et en plus, on conserve le mystère.
On n'a pas trouvé de lien quand on analyse les cendres.
D'accord.
On se passe ça en spectro de flamme. On regarde la quantité de calcium, de potassium. Et il n'y a pas de. C'est pas parce que vous avez un terroir potassique que vous allez avoir plus de potassium. Quoique le potassium est quand même la cendre minérale la plus importante. Mais si vous avez un terroir calcium, vous n'aurez pas plus de calcium dans cette proportion de cendre. C'est pour ça que le lien n'est pas lié qu'à ça, mais il y est lié aussi au processus que vous appliquez à votre vin dans son élevage. Vous pouvez avoir beaucoup de cendres, mais si vous avez un processus qui préserve la matière organique, et bien vous aurez une dominante organique. Mais ce que je voulais vous dire sur cette recherche qui avait conduit donc à qui était biaisée et qui avait conduit à dire que les vins minéraux, c'est des vins riches en benzène, méthanthiol et un peu plus sulfité, un peu plus acide, j'avais dit attention, nous quand on rentre en chimie, on a des cours de chimie minérale, de chimie organique, si on commence à mettre des qualificatifs de minérales sur des composés organiques, qu'est-ce qui va arriver? La chimie, notre œnologie bienveillante et additive, va rajouter de la minéralité au vin, c'est-à-dire de ses composés.
Et si on avait pu, ce serait déjà fait, sans doute.
Je peux vous dire que 5 ans, pas plus tard que l'autre jour, je me suis insurgé sur un forum parce que j'ai relevé qu'il y avait un laboratoire d'œnologie qui vendait des levures qui produisent plus de ces composés soufrés. Mmh. Et donc, elle s'était revendiquée comme levure produisant plus de minéralité. Voilà, on est dans l'œnologie additive. Et moi, ça me confirme, si vous voulez, par rapport à tout cette recherche scientifique qui était biaisée et qui finalement n'a pas été objective par rapport à la chimie de base,
c'est-à-dire les minéraux. Vous avez une formation chimiste.
Oui, bah les œnologues aussi, hein, ils ont une formation de un petit peu.
Ah oui, mais peut-être même, hein, la fameuse différence entre chimie organique et
chimie minérale.
Je vais revenir parce qu'on est en train de boire le Riesling là qu'on trouve juste
magnifique.
Alors là, je vais poser une question, mais peut-être Marie va me relayer. Mais comment s'exprime du coup là en termes de goût la minéralité là-dessus? On a parlé un peu de salinité, mais j'ai cru dire aussi qu'il y avait une notion de salivation. C'est Jean-Michel Deiss qui dit en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver, il y a trois types de terroirs. Il y a les sédimentaires, il y a les volcaniques et puis il y a les cristallins. Et ben c'est bizarre, quand un vin est vraiment minéral, on salive pas au même endroit sur les trois types de terroirs. Alors là, sur l'Emmental, on est sur un terroir d'argile. Où est-ce qu'on est censé saliver? Parce que là, moi, je salive là plutôt sur les côtés, mais bon, j'ai pas une excellente connaissance avec le
schéma de
les coins de ma bouche.
On salive où on peut.
Ce qui est intéressant, c'est là. Tout à l'heure, j'avais parlé de représentation avec les deux photos Amazon Grand Canyon. Mmh. Bon, quand vous parlez dans votre tête d'argile, de volcanique et de sédimentaire, votre représentation, elle se base par rapport à des connaissances que vous avez du monde minéral, mmh, que vous avez acquis étant tout petit. Je crois que ma fille en sixième, là, on est en train de lui apprendre, c'est le tout début de la chimie, on apprend à distinguer un élément minéral d'un élément organique. Ça vient de là, hein, dès le départ. Bon, ben, il faut poursuivre sur cette rigueur en séparant bien ce qui est organique de ce qui est minéral. Pourquoi? Parce que sinon, on va sur des travers et avec des conséquences en œnologie additive. Alors, c'est dommage. Bon, voilà.
C'est là où j'aimerais en venir, en fait, parce que cette question de la minéralité, voilà, on voit que c'est un débat sur la chimie, de dégustateurs, entre telle ou telle approche, mais oui. Est-ce que, au fond, pourquoi ce sujet est important? Pourquoi, pour vous, il est important de pas mélanger l'organique et le minéral? Voilà, pourquoi ce sujet-là est important?
Il y a un point qui est important, c'est que l'œnologie, tout à l'heure, vous avez parlé d'authenticité, c'est vous, madame, hein, qui avez parlé d'authenticité. Il y a un point de
ça lui arrive, elle parle des fois d'authenticité.
entre
autres choses.
Pourquoi? Parce qu'il y a un point que l'œnologie n'arrivera pas jamais à monétariser, à vendre, à modifier, et que c'est une donnée essentielle qui est inaliénable, inaltérable, c'est le temps. Hein? C'est le temps. Et on peut essayer de trafiquer des vins pour les faire vieillir plus et ainsi de suite. Mais le processus de minéralisation, ça s'inscrit dans le temps. Hein. Et donc, quand un vigneron va faire une première fermentation alcoolique, peut-être la malo en même temps, et puis va rajouter un deuxième processus de minéralisation, un troisième processus de minéralisation, par exemple un élevage sous voile, et puis il va encore rechercher de l'oxydation ménagère, je veux dire de la minéralisation ménagère, c'est-à-dire la voie chimique, cette fois-ci en barrique. Bon, ben, tous ces processus, ils s'inscrivent dans le temps. Et c'est là qu'on obtient l'authenticité du vin. Si on veut le vendre en primeur, comme on le fait avec le Beaujolais, là, on obtient des dimensions organiques qui sont tout aussi respectables, avec des arômes de fruits très particuliers qui ont des bases organiques. La minéralité ne peut pas se fonder sur des composés organiques, parce que après on va chercher à rajouter ces composés organiques, et puis c'est pas en cohérence pas, avec la chimie.
Ouais, avec la minéralité on peut pas tricher, c'est-à-dire que la minéralité on est sincère, voilà, on peut pas la synthétiser, tricher. On peut pas inventer des arômes. La minéralité parle terroir et elle est effectivement sincère.
Et à l'inverse, si elle est masquée, si on ne la décèle plus, c'est qu'on n'est plus dans l'authenticité du terroir. Est-ce que je vous comprends bien?
Pas forcément. Si tu peux faire un vin organique Beaujolais nouveau, tu es dans l'authenticité d'un Beaujolais, mais tu le laisses pas minéraliser, c'est tout.
Vous pouvez minéraliser un vin, prendre le temps, faire ce qu'il faut, et puis au bout de, quand ce vin est prêt au marché, vous pouvez lui rajouter de la gomme arabique, hein. Vous pouvez lui rajouter
Mais là, ça marchera pas parce que.
On peut recharger en organique, hein. Voilà. Mais alors, c'est ce que fait l'œnologie souvent. Elle recharge des vins en matière organique. Mm-hmm. Hein. Elle met des additifs organiques, que ce soit des tanins.
On est très loin de ce que vous décrivez comme étant le laisser le temps au temps. Et il me semble que vous aviez rappelé que l'expression consacrée des cisterciens était l'esprit du vin. Oui. Et Jacques Irigaud, lui, parle d'inconscient du vin.
L'inconscient du vin, quelle belle formule.
Et là, on comprend qu'on est un petit peu dans l'insaisissable et que le débat n'est pas que technique, n'est pas que scientifique, comme toujours avec le vin.
Oui, et puis à l'époque, il y avait cette lutte avec Cluny, où justement, c'était les d'un côté les moines qui additivaient les vins, qui ajoutaient beaucoup de composés, du miel, ainsi de suite, et puis les cisterciens qui avaient une vision beaucoup plus orthodoxe, on va dire, hein, du sans cafouiller, mais ils avaient une vision un peu plus rigoriste du vin, et je pense que Jackie n'a pas tort quand il a réactivé cette idée de la dégustation au test vin. Mm-hmm. Bah, c'est exactement l'opposé du verre Inao, si vous voulez, ou le verre Inao, bah, on va chercher à sentir d'abord le nez, donc les arômes organiques, hein, les essences, les qui sont forcément fatalement organiques, ça passe au nez, et puis le test vin qui dit c'est complètement table rase de ce qui se passe au nez, et le test vin pour garder sa forme bosselée, au contraire elle cherche à passer le vin à l'oxydation, hein, elle augmente l'équilibre, cela cherche permettre d'augmenter l'interface air vin. Et donc, on force la minéralisation au test de vin, test vin, pour révéler donc cette matière saline.
Oui, puis en gros, néophyte du vin et de la dégustation, enfin, tout bêtement, j'aurais tendance à dire, ben, je sais pas, on parle de minéral. Un minéral, ça a pas de goût, ça a pas d'arôme. Par contre, un minéral, c'est chaud, c'est rugueux, c'est lisse. Enfin, quand on parle d'une pierre, elle est chaude, elle est rugueuse ou lisse. Donc, ça me semble pas complètement cohérent. C'est le bon sens de base de raisonner plutôt sur un toucher avec un minéral, parce que ça a pas de goût, un minéral. Ceux qui critiquent disent, sucer un caillou. Non, mais c'est pas les bons paradigmes. Le vrai bon paradigme, c'est qu'un minéral, ça se touche, c'est chaud, c'est froid, c'est lisse, c'est rugueux. Donc, ça me semble pas aberrant de déguster sur le toucher et pas du tout sur un arôme. C'est antinomique, en fait.
C'est-à-dire que la minéralité renvoie des descripteurs sensoriels qui ont trait aux minéraux. C'est bien ça.
Et pourquoi pas, moi, je trouve le...
Soyez sur des galets, sur des schistes, sur des basaltes. Bon, c'est très intéressant, ces expériences sensorielles, hein, de caractérisation des roches.
Et oui, c'est formidable.
Sensorielles. Voilà.
Moi, j'aime beaucoup ce que Patrice vient de dire, et ça me ramène aux enseignements de Jacques Irigaud et au fait que la dégustation géosensorielle, elle est là justement
décrivons rapidement qu'est-ce qu'on met sous le terme
géosensorielle.
Voilà, dégustation géosensorielle par rapport à la dégustation classique de l'œnologue qui renifle et qui décompose tous les arômes. Voilà. Ça, là, on la connaît bien.
Vous me corrigerez si
nécessaire. La géosensorielle,
vas-y. C'est un univers de dégustation dans lequel on laisse de côté le tout olfactif, auquel, il faut bien dire, les industriels nous ont beaucoup habitués aussi, parce qu'ils savaient faire des vins qui sentent le cassis, des vins qui sentent le café, etc. Des copeaux de bois, et j'en passe. Donc là, on s'écarte de cet univers du tout olfactif et on va vers le toucher tactile, c'est-à-dire, est-ce que le toucher de bouche est saillant ? Est-ce que j'ai quelque chose qui est plutôt scintillant ou plutôt sphérique, accueillant, rond, souple ? Enfin, il y a plein de vocabulaire beaucoup plus adéquat.
On va beaucoup plus dans le toucher de bouche et dans la notion, moi j'y connais absolument rien.
Et donc, c'est ce qui
c'est d'autant plus facile pour moi d'en parler.
Oui.
Et donc, encore une fois, il y a une notion, c'est de salivation, encore une fois. Voilà, il y a la salinité et la salivation.
Tout
mais après,
fait.
Au-delà de ça, c'est plus un vocabulaire du toucher qu'un vocabulaire du sentir et de l'arôme, du sentir du nez.
C'est bien, le côté velours parfois, le côté épais, oui, ou là, contraire, le côté
rond,
très...
Rond, c'est sphérique. Après, on prend des termes un peu peut-être pompeux. Mais rond, en gros, c'est sphérique.
Non, c'est pas pompeux. Anguleux. Alexandrin, en poésie, c'est pas pompeux. Et sphérique, dans le vin, c'est pas pompeux. Non, mais tu sais, c'est mon grand combat.
C'est pour te charrier un petit peu.
David Lefebvre, est-ce que dans ce débat qui, on l'a compris, est important pour donner des profils au vin, la crainte, c'est quand même pas de perdre un peu les consommateurs aussi par rapport à cette notion de géosensorielle. On leur dit bon ben on vous a bien habitué à reconnaître les arômes avec votre nez ou en rétrofaction, agrumé, etc. Puis en fait, essayez d'oublier tout ça. Bon, Bruno Cluny, vous avez fait un peu la même. Hein. Essayez d'oublier tout ça, essayez d'aborder les choses différemment et notamment par ce toucher de bouche. C'est une des difficultés quand même.
La rétrofaction, elle est très importante par contre.
Et les débats qui ont eu autour n'ont pas arrangé les choses, hein, je dois dire. C'était beaucoup moyens mis pour défendre la cause d'un support organique à la sensation de minéralité, souffre des éléments sous-près. Et donc, c'est, effectivement, ça a ajouté à la confusion. Et il y a eu beaucoup de publications, notamment de, je crois qu'il y a eu Madame Denelin à Changin, repris enfin, avec Monsieur Le Fur un moment en Bourgogne, et puis il y a eu toute cette reprise, et donc ça a noyé un peu le moi je j'ai des gens un peu néophytes tout simplement dis mais vous regardez ces deux paysages, vous faites bien la différence et vous appliquez vos descripteurs, hein, et descripteurs sensoriels, et puis après vous essayez quand vous goûtez le vin de appliquer cette même différence de représentation sensorielle quand on goûte le vin. Voilà. Et c'est la question que vous posiez, est-ce qu'il est rond, est-ce qu'il est sphérique, est-ce qu'il est pointu, anguleux, voilà. Et là, on commence à progresser. Mais je suis d'accord que le chemin, c'est pas gagné, et puis ça sera encore longtemps sujet à débat. Hein. Ce serait tellement simple, hein, d'y mettre un chiffre sur la base d'une analyse chimique, mais partons déjà de ce qu'on sait. Moi, il y a deux points, deux indices qui sont importants, c'est la quantité de cendre et le niveau de décomposition du vin. Hein. Et le niveau de décomposition du vin, ben ça a des référentiels chimiques, c'est le poids moléculaire moyen des différentes composantes dans leur famille, voilà, où est-ce qu'on est, tout ça on pourrait l'avoir, hein, c'est le niveau de décomposition du vin. Voilà.
Alors après sur la notion goûter, toucher du vin et toucher minéral, on a essayé de le trouver sur un rouge, parce que encore une fois c'est peut-être moins évident sur les rouges de distinguer, en tout cas sur la notion du goût, la minéralité. Là on est parti sur un Côte-Rouennaise du domaine Sérol qui s'appelle les Calques Granit. C'est un domaine assez sympathique, le domaine Sérol, parce qu'il est il a un cépage autochtone qui s'appelle le Gamay Saint-Romain, et ensuite il est sur des granites, donc normalement une roche qui est assez identitaire. Et effectivement, alors après encore une fois, je suis pas un expert de la géosensorielle, mais me semble-t-il, et Marie sera plus experte que moi, dans ce qu'on a dans le verre là, le 2019, il y a effectivement le Gamay, dans ce qu'on connaît du Gamay, dans sa version beaujolaise, on va dire ça comme ça, sur le côté fruité, mais on trouve quand même une côté, enfin. À toi de te donner les bons termes.
Je dirais minéral. Les bons termes, je sais pas. Ce seront les miens.
En tout cas, j'ai un peu de salivation en fond de bouche. Oui. Voilà.
Je retrouve la petite pointe de rusticité du Gamay Saint-Romain qui est un petit peu plus. Un petit peu plus exigeante que le Gamay, et je pense que ça explique qu'on ait arraché autant le Gamay Saint-Romain alors qu'on a privilégié le Gamay qui était un petit peu plus flatteur et un peu plus rond. On a quelque chose d'un petit peu assez moelleux et sphérique en bouche. Moelleux, ça peut être mal interprété, mais par contre, on retrouve cette note légèrement fumée qu'on avait si on se concentre et qu'on avait dans le premier vin qui est blanc. Et cette note en commun, elle est facilitée par la dégustation du blanc en premier. Je la retrouve un petit peu dans le rouge, et je me souviens de vous avoir entendu parler de cette notion de fumée qui pouvait être un indicateur bien loin de l'élevage, bien loin même d'un sol peut-être un peu volcanique, mais plutôt identifiant des composés minéraux dégradés.
Oui, bon, après sur les
vous avez le droit de dire non.
Minéraux, on peut avoir des
recalés zéro.
Le magnésium, bon, vous aurez une sensation d'amertume.
Absolument, hein. Oui.
Sauf que l'amertume conférée par le magnésium, c'est pas du tout la même, hein, que
oui, elle prolonge, elle est élégante.
Que certains polyphénols, que la quinine ou que ce type de polyphénol, la sensation d'amertume. Il y a dans cette sensation du vin, c'est toujours un ensemble de sensations. Par exemple, je vous donne un exemple, vous prenez une lamelle de cuivre, vous la mettez sur votre langue, donc vous aurez cette sensation métallique, hein, comme le fer, vous aurez une sensation métallique. Ben, cette sensation métallique est une des composantes de cette salinité. Hein. La salinité ne se résume pas au chlorure de sodium, hein. Fort heureusement. Et donc, on a des récepteurs. Alors, c'est peut-être pas tous, on n'a peut-être pas encore aussi assez travaillé le sujet, hein, des différents minéraux. Sauf que, quand même, je précise souvent que, en brasserie, Ils maîtrisent quand même énormément la partie minérale, bon, parce que effectivement ils mettent de l'eau et donc ils veulent avoir ils s'intéressent énormément à la qualité de l'eau. Moi, j'habite à côté d'Aubernais, je peux vous dire que chez Cronenbourg, la qualité de l'eau, ils savent très exactement ce qu'ils mettent comme calcium, comme potassium, comme magnésium,
et comme sucre ajouté.
Ils maîtrisent parfaitement. Mais ils maîtrisent parfaitement la minéralité de leur eau parce qu'ils savent que ça influe énormément sur le goût. Hein. Après, sur les notes empyromatiques que vous faisiez allusion là de fumée, alors que ça peut être aussi beaucoup de différents processus qui conduisent à ces notes entre la maturité des raisins jusque à des types de fermentation levurienne avec quel processus.
C'est pas tout à fait le fumé empyromatique auquel je fais allusion, mais plus une note fumée assez profonde qu'on avait déjà trouvée sur la cuvée pure de Santorin en franc de pied que Bruno Quenu nous avait apporté quand on l'avait reçu.
Ah oui.
Et c'est quelque chose que j'identifie depuis peu, oui. que j'ai du mal à décrire et que je ressens sur des vins qui sont un petit peu plus minéraux. Là, il y a une note, vous le dites et maintenant je trouve ça évident, mais une petite note de métal sur le Côte Rouennais.
Une petite touche métallique.
Ouais, un petit côté ferrugineux.
Je vais juste en profiter.
Pour c'est le ferrugineux, c'est pour Jean-Marc. Ça.
Oui. Je vais en profiter pour rendre hommage à Jean-Marc Gatron du Rouge et du Blanc, puisque c'est lui qui a vraiment lancé le sujet grâce au Rouge et le Blanc sur l'article sur la minéralité était paru dans le numéro 100.
En 2016, 100. C'est ça?
Oui. Alors, il y a eu un premier en 2014. Hein,
parce que moi, j'ai le souvenir d'un premier numéro en 2013 qui avait pas, qui avait reçu réponse détaillée de Jacques Irigaud. Justement.
Non, parce ça, c'était que... dans la RVF.
C'était la
réponse de Jacques Irigaud est une réponse à un papier paru dans la RVF que tu nous as fait passer, Patrice, qui est assez passionnant. Mais le Rouge et le Blanc, qu'on a reçu aussi dans la Terre à Boire, et on recommande évidemment la lecture de cette revue formidable, dans laquelle vous écrivez aussi des articles de temps en temps,
David Lefebvre,
sur ce sujet précisément. Ils ont été aussi les précurseurs de cette question de la présence du goût minéral dans les vins et de l'importance de la déceler.
Le jour où on avait fait l'interview, donc en 2013, avec Jean-Marc Gatron, Jean-Marc m'avait sorti cette bouteille Santorin franc de pied.
Ah,
ben voilà. Ah, mais c'est la botte secrète, alors.
C'est la botte secrète. La boucle est bouclée. Merci infiniment, David Lefebvre, pour poursuivre un petit peu ce sujet. Déjà, on peut chercher un petit peu vos différents écrits. Le livre dont tu parlais, Patrice.
Le vin au naturel de François Morel.
Le vin au naturel de François Morel, qui aide aussi à comprendre.
Qui n'a rien à voir avec l'humoriste, qui est l'ancien rédacteur en chef du Rouge et Blanc.
Oui, effectivement, c'est bien de le préciser. Ça n'est pas le François Morel célèbre, c'en est un autre. Voilà. Est-ce que vous pensez que pour conclure, ce débat fait son chemin? Est-ce que la géosensorielle, il y aura toujours deux écoles ou est-ce que
il y aura des terrains d'entente, il y aura convergence à un moment donné.
Parce que le paradoxe de ce débat, pour vous tout vous dire, en regardant ce débat, je trouve le paradoxe, c'est quand même que tout le monde est d'accord pour dire que pour mettre en valeur le sol, si c'est des schistes, si c'est des marnes, si c'est de l'argile au calcaire, évidemment, tous les œnologues, tous les dégustateurs vont mettre en avant cet aspect-là. En considérant évidemment que c'est ce qui vient enrichir le vin. Mais dès lors qu'il s'agit de ressentir la question de la minéralité, ça devient une sorte d'impensé, de tabou. C'est étrange.
Oui, c'est étrange parce que ça participe d'un certain scientisme, tout simplement.
Ce qui n'est pas isolé n'existe pas, alors que vous dites, notamment dans un de vos articles, ce n'est pas parce qu'on n'a pas démontré son existence que ça n'existe pas. Les trous noirs, voilà, ça fait 100 ans qu'on sait qu'il y a des trous noirs existent. On vient juste, il y a quelques mois, d'en identifier un.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que le vigneron qui pratique et qui applique des processus, il dit tiens, là, je vais minéraliser un peu plus. Ma vigne, elle était sur un sol squelettique, donc je vais aller révéler. Donc, il décide de changer, de sortir un peu des processus industrieux, enfin, standardisants de l'appellation. Il va pousser un peu plus loin la minéralité, il met le doigt dedans. Et ça va bien quoi. Et c'est toute cette école de vignerons qui dans le domaine des pas que des vignerons nature d'ailleurs, hein, mais qui se sont mis à abandonner un peu le soufre et à aller vers des processus beaucoup plus minéralisants. Et voilà, ils s'y retrouvent et ça correspond quand même à une nouvelle génération. Hein. Ces vins-là étaient très rares il y a 30 ans. Aujourd'hui, ben, c'est quand même très agréable de voir tous ces vignerons qui vont mettre en jarre, parce que bon, la jarre, c'est un processus minéralisant exceptionnel aussi. Hein,
voilà. Ah oui, dont on parle pas assez et qu'on a beaucoup de mal à définir. Voilà. Mais si je devais retenir une chose de ce que j'ai lu de et sur vous, en guise de conclusion, c'est cette notion d'harmonie. Et vous dites que ce sont des relations entre l'acidité, la salinité et la minéralité qui permettent au dégustateur de former son palais de plus en plus, et que le but ultime n'est pas de sentir cette minéralité et d'être capable de goûter le caillou, etc., mais de parvenir à cette harmonie pour le vigneron, de tous les composants gustatifs du vin.
C'est l'expérience que je fais en général avec les eaux minérales, additivés d'alcool, de sucre, de tanin, et on voit que les minéraux en fait participent donc à l'harmonisation des composantes. Et c'est ce que je dis souvent, quand un vin il est trop ci, trop ça, trop acide, trop sucré, trop alcoolé,
c'est qu'il est pas minéral.
C'est ça, c'est peut-être qu'il manque de minéraux, que les minéraux sont pas assez
comme libérés. Comme le Mésime 2003 en fait.
Voilà. C'est pas une quantité de minéraux, je vous le redis, hein, c'est le minéraux qui égare sa matrice organique. Hein, oui. C'est bien ça. Et donc, si le vin est pas assez minéralisé et ainsi de suite, bon, après, on pourrait encore débattre sur toute la partie viticulture, on pourra refaire une émission si vous voulez.
On va se la programmer celle-là.
On va vous réinviter.
On serait ravis de vous avoir à nouveau. Ouais. Merci infiniment David Lefebvre d'être venu dans la Terre à Boire pour nous éclairer un peu sur ces thèmes de la minéralité. Au plaisir de vous lire ici
et de goûter le vin.
Ou là, et de goûter le vin. Et voilà, si on passe en Alsace, on vous fera signe. Si vous venez à Paris, voilà, profitons-en pour se rencontrer et débattre de ce sujet infini. Merci beaucoup David Lefebvre.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, bonne soirée.
Bon, est-ce qu'on a un peu avancé sur ce débat?
Je sais pas, il y a beaucoup de choses, mais bon, c'était intéressant. Après, on est tout petit par rapport à ça, mais bon, voilà, moi je pense que la minéralité, c'est assez intuitive au final. Effectivement, elle se pense un peu en toucher. Je pense que la durée des vies des vins, qui fait qu'un vin, il paraît jeune 30 ans après, je pense que c'est fondamentalement parce qu'il est minéral. Après, on pourra, voilà, mais ça, c'est plus une intuition qu'une démonstration scientifique. Encore une fois, je me rappelle du vin.
Donc c'est bien mieux.
Du domaine Henri Milan qu'on avait dégusté, qui était, voilà, qui était assez vieux, qui était à 100% nature et qui a l'impression qu'il avait été pressurisé la veille, quoi. Mmh. Et en même temps, avec beaucoup de complexité. Donc voilà, je suis intuitivement, mais c'est juste de l'intuition. Donc, je peux rien prouver, bien évidemment. Mais je me dis que la minéralité, voilà, c'est-à-dire le contenu minéral du vin, c'est une grande composante du vieillissement et de fait de garder la jeunesse et de maintenir une jeunesse éternelle, entre guillemets, au vin, et pas qu'il évolue que sur des notes truffées, de sous-bois, de machin de bidule. Donc un vin minéral, il n'évolue pas.
On les aime aussi.
Mais on les aime aussi. Je pense que c'est plutôt un vieillissement qu'une bonification. Voilà.
Ouais, absolument. Je retiens ta question, Romain, de savoir si on n'allait pas finir par perdre le consommateur. Mmh. Et moi, je pense que c'est là qu'on le retrouve. C'est là qu'on le retrouve en lui disant de s'affirmer, d'écouter son corps et d'être, comme le dit Patrice, beaucoup plus dans l'intuition que dans le catalogue de familles, de fruits et de fleurs. Et voilà.
Ça forme une tendance. Ça me plaît. Hein. Je pense qu'on peut ranger cet épisode avec celui de Bruno Quenu qu'on a déjà évoqué plusieurs fois sur le fait de changer un peu les modes et les modes de pensée, les systèmes et d'appréhender le vin dans son ensemble plutôt qu'en le décortiquant.
Révolution.
La révolution de la dégustation. Allez, je termine en rappelant les deux vins très intéressants, magnifiques Riesling du domaine Barmes-Büchler, appellation Lehmental. C'est un 2013. C'est peut-être aussi pour ça qu'il avait un peu vécu et qu'il avait autant d'arômes. Domaine Sérol en Côte-Rouennaise. On était passé sur du rouge. Un cépage qui n'est pas tout à fait le Gamay, qui est le Gamay Saint-Romain. J'ignorais même l'existence de ce cépage. C'était un 2019, et c'était en Côte-Rouennaise, oui, Patrice.
Éclat de granit pour la cuvée.
Éclat de granit, c'est le nom de la cuvée.
Qui porte bien son nom.
Voilà. Merci à tous les deux. Ben, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, hein, pour parler de sol, de terroir, d'appellation, de vin, de cépage, tout ce qui vous passe par la tête. Une saison devant nous pour parler de vin. Voilà, on est de retour dans une paire de semaines. Suivez-nous sur les réseaux. N'hésitez pas à donner votre avis, à nous dire que ce débat sur la minéralité n'a aucun sens. Tout ce que vous voulez.
Ne dites pas ça.
On est sur Twitter, on est sur Instagram, on est sur Facebook et sur le site internet laterraboire.com. Merci à tous.
Merci, bonne soirée.
Allez, à bientôt. Ciao. Bye.